Forum Opéra, Cave Canem, Camille de Rijck.
Ravi de vous retrouver pour ce 22e numéro de Cave Canem. Le dernier Cave Canem, c'était, je pense, il y a 6 ans, avec les mêmes invités. Roselyne Bachelot, qui est avec nous par Skype, confinement oblige. Bonjour Roselyne.
Bonjour Camilla.
Et Sylvain Faure, lui aussi enfermé dans son grenier avec des écouteurs. Bonjour Sylvain.
Bonjour Camille. Bonjour Roselyne.
Au programme de ce Cave Canem, vous vous en doutez, on va parler de l'actualité lyrique brûlante. Et quelle est-elle, l'actualité lyrique brûlante? Elle se décline en deux troncs. Le premier tronc, c'est l'actualité du disque qui survit grâce à cette technologie qui nous protège des microbes et des virus. Et l'autre tronc, bien, c'est ce qui nous occupe quotidiennement, à savoir le confinement et son impact sur la vie des musiciens et sur l'avenir et puis aussi sur l'économie. On va peut-être, si vous voulez bien, Roselyne et Sylvain, commencez par évoquer l'un des deux albums qui seront évoqués au cours de cette émission. C'est le dernier disque de Jonas Kaufmann, dont tout le monde est amoureux. Je parle de Jonas, pas spécialement de son nouveau disque, en écoutant un extrait.
Thank you.
Wien, le dernier album de Jonas Kaufmann en honneur à la ville de Vienne, qui est elle aussi confinée, tout comme les Jonas Kaufmann, bien qu'ils soient apparus sur scène à l'occasion d'une vidéo YouTube. Alors, Roselyne Bachelot, est-ce que vous comptez parmi les amoureuses extatiques de Jonas ?
Eh bien, je suis très ennuyée, Camille, parce que je fais partie des fans absolus de Jonas Kaufmann. Et je n'ai absolument pas marché sur ce dernier disque. J'ai l'impression que Jonas Kaufmann est saisi d'une sorte de boulimie, de soif de se confronter à toutes sortes de choses, comme s'il craignait presque l'andropause. C'est très méchant ce que je dis. Mais ce disque, a priori, n'est absolument pas fait pour moi, pour une amoureuse du lyrique comme moi. On a l'impression qu'il se prépare à une carrière de chanteuse dans une taverne, de chanteuse ou de chanteur dans une taverne viennoise.
En Dirndl.
Et alors, bien sûr, on retrouve la richesse des harmoniques, la voix de bronze, le chocolat chaud qui coule dans les veines, on retrouve l'agilité vocale de Kaufmann. C'est vrai, il y a des airs, il est assez difficile de les comparer avec d'autres interprétations, puisque je ne connais pas, à part évidemment la chauve-souris, tellement d'air qui est certain. Et certains airs de Strauss, je ne connais pas assez de références pour pouvoir juger par comparaison, de faire une appréciation davantage compétitive sur un certain nombre de textes et d'airs. Mais franchement, ce n'est pas un disque pour moi, voilà, c'est clair.
Alors c'est vrai, Sylvain Faure, que dans les années récentes, le répertoire viennois a rarement été aussi souvent servi par un organe aussi riche, aussi luxuriant que celui de Jonas Kaufmann. Et pourtant, comme le dit Roselyne Bachelot, on a l'impression qu'il y a un mariage qui ne se fait pas, quelque chose qui ne se produit pas.
Oui, moi je suis du même avis que Roselyne. Et c'est vrai qu'il avait, il y a quelques années, produit déjà un disque, enregistré déjà un disque consacré au répertoire viennois qui s'appelait « Du bist die Welt für mich ». Et là, il remet ça avec à la clé une tournée de concerts. Je me souviens avoir assisté, je crois que c'était au Théâtre des Champs-Élysées, au concert qui concernait ce disque d'il y a quelques années, où il affectait de chanter avec un microphone des années 30. Je ne sais pas si vous vous souvenez, d'ailleurs c'était la couverture du disque. Et déjà à l'époque, le disque m'avait peu convaincu, et là, le concert était vraiment complètement raté, en fait. Si bien qu'après, il avait même renoncé à ce fameux artifice du micro à l'ancienne. Et là, on retrouve exactement le même problème, c'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est probablement pas une voix pour ce répertoire. Et c'est une voix qui ne se prête pas à l'espèce de finesse, à l'espèce de joliesse qu'on attend dans ce répertoire, et pour lequel ce répertoire est fait, ou de légèreté, d'une certaine façon. Et du coup, en fait, je retrouve exactement la même déception que celle que j'avais vécue avec son précédent disque dans ce répertoire.
Alors, c'est vrai qu'il avait donné ce récital à Paris, je ne sais pas si vous y étiez tous les deux récemment, au cours duquel il a eu une sorte d'éternuement qui lui a valu de devoir annuler toute la tournée d'interviews qu'il devait donner après. Je faisais partie des malheureux concernés par cette annulation suite à l'éternuement. Mais c'est vrai qu'apparemment, les spectateurs du Théâtre des Champs-Élysées, je crois, avaient été très peinés de l'entendre chanter ce répertoire avec micro.
Effectivement, là, les artifices de scène sont connus. On a le sentiment aussi, ne serait-ce qu'à travers la pochette, la couverture du disque, qu'il y a une sorte de clownerie chez Jonas Kaufmann, et qui est assez sympathique dans les contacts personnels qu'on peut avoir. Mais on dirait que dans cet exercice du disque, il passe sans nous prévenir de cet aspect de clownerie à la profondeur du chant lyrique, et qu'il n'a pas choisi, qu'il veut jouer sur les deux tableaux. Je me demande si ce n'est pas cet exercice d'équilibre qui finalement donne ce côté raté au disque dès l'entrée.
Sylvain, est-ce que tu veux rajouter un mot ou est-ce qu'on passe au sujet suivant ?
Non, tout ce que je peux rajouter, c'est de dire qu'à mon avis, Kaufmann a vraiment bâti sa carrière et sa personnalité artistique sur du répertoire très sérieux et très dramatique. Et je ne suis pas certain qu'il ait en lui-même les ressources d'humour et de légèreté que requiert ce répertoire. Et je m'étonne qu'il y persiste.
C'est un lieu commun pour les chanteurs de tenter de rejoindre l'autre rive. Ils l'ont tous plus ou moins fait.
Avec l'immense talent qui est le sien, je ne suis pas sûr que Kaufmann soit vraiment apte à cela.
Alors, on va passer, avant d'écouter un extrait du dernier album de Benjamin Bernheim, à l'autre sujet qui est brûlant, c'est la crise du coronavirus, mais plus particulièrement son impact sur les énergies financières de l'Opéra de Paris. Parce qu'on le sait, Roselyne Bachelot, Sylvain Faure, que l'Opéra de Paris était d'ores et déjà dans une situation économique désastreuse, vu l'impact que les grèves ont eu sur ces dernières productions, qui pour la plupart ont été annulées ou écourtées. Impact financier donc sur cette maison qui a déjà dû rembourser pas mal de soirées entières. Et maintenant, le coronavirus, Don Giovanni a été annulé, les chanteurs de Manon ont été renvoyés chez eux. On est donc pour l'Opéra de Paris, peut-être même plus que pour les autres maisons d'opéra françaises, face à une potentielle catastrophe financière. Roselyne Bachelot, vous qui êtes plongée jusqu'au cou dans ces réalités-là, quelle est votre lecture de la situation ?
Alors, l'Opéra de Paris traverse un cataclysme incroyable qui met véritablement en danger cette grande maison lyrique. Elle a quand même un avantage, c'est que c'est une maison qui est très subventionnée par l'État et que, contrairement à des maisons qui vivent strictement sur des procédures commerciales, elle a une sorte de poire pour la soif, de bouée de sauvetage. L'État ne va pas les lâcher. Ça, c'est quand même important. Mais vous avez oublié que l'Or du Rhin a aussi été supprimé. On attendait ce premier épisode de la production de la tétralogie. Alors, effectivement, nous nous mobilisons. Moi qui fais partie du cercle de mécènes de l'Opéra de Paris, j'ai évidemment demandé de ne pas me rembourser mes places. C'est ma petite contribution à la survie de l'Opéra de Paris. Ça me paraissait le minimum que des gens qui sont moins impactés financièrement par la crise du coronavirus puissent apporter leur pierre. Et je crois que je sais que je ne suis pas seul. Alors, comment va surnager l'Opéra de Paris ? Il faut que chacun y tienne. Chacun y mette du sien dans les artistes, dans la direction, mais aussi dans l'État. L'État français est un État qui subventionne. La culture, c'est quelque chose d'important. On s'apprête à lâcher les chiens budgétaires sur toutes sortes de sujets. Ne pas exclure la culture et l'art lyrique de cette générosité serait incompréhensible et serait un calcul à court terme.
Vous l'avez dit, Roselyne Bachelot, on a vu effectivement un mouvement de citoyens qui, de leur plein gré, ont demandé à ce que les places ne leur soient pas remboursées. Mais il y a une question qu'on pose rarement à voix haute, c'est de quelle manière peut-on s'assurer qu'une quote-part au moins de cet argent non remboursé ira aux artistes qui étaient concernés par ces productions et qui ont été renvoyés chez eux ? Ou pour le dire autrement, comment peut-on être sûr que tout cet argent ne va pas finir uniquement dans la caisse des maisons d'opéra ?
Vous posez une question importante. J'ai eu longuement, pendant le week-end, Stanislas de Barbeyrac au téléphone, qui a regroupé autour de lui un certain nombre de chanteurs lyriques, en particulier chez les jeunes chanteurs lyriques, qui sont évidemment absolument catastrophiques. Mais les jeunes chanteurs lyriques se mobilisent au niveau d'une catastrophe. La solidarité est un vrai mot dans l'art lyrique jusqu'à l'heure. Il faut aussi que les mécanismes de solidarité entre chanteurs pour traverser des catastrophes se mobilisent aux côtés de l'action de l'État ou des mécènes. Il y a évidemment des jeunes chanteurs disparaître de la scène parce qu'ils ne pourront pas survivre. Survivre peut-être d'ailleurs physiquement si certains sont touchés par le coronavirus. On sait maintenant que ça touche des jeunes personnes, mais survivre professionnellement, ça va être un dégagisme absolument incroyable. Donc les mécanismes de solidarité, ils doivent exister aussi entre chanteurs.
Sylvain Faure, peut-être d'abord sur la crise que traverse l'Opéra de Paris. Vous l'avez vous-même très justement indiqué et très rapidement. L'Opéra de Paris est peut-être encore plus en difficulté que les autres maisons d'opéra à cause de ce tuilage des grèves d'abord et puis de la crise du coronavirus.
Oui, parce que quand la crise du coronavirus est arrivée et qu'il a fallu fermer l'Opéra de Paris, les grèves avaient déjà creusé dans le budget de la maison à peu près un trou d'à peu près 20 millions d'euros. Autrement dit, on était déjà à l'os quand la crise sanitaire est arrivée. Et la crise sanitaire s'ajoutant à la crise budgétaire, on ne voit pas très bien comment on en sort. Moi, ma crainte, c'est que l'Opéra de Paris maintenant n'est qu'un gros chaînon d'une crise de système. Et c'est ce que vient de dire très justement Roselyne, c'est-à-dire que il y avait au pays de l'art lyrique en France le problème de l'Opéra de Paris qui était un problème colossal. Maintenant, ça n'est pas que l'Opéra de Paris qui est en crise, c'est la totalité du système lyrique français, avec évidemment comme première victime les jeunes chanteurs français. Et donc, la question c'est, est-ce que le ministère de la Culture, est-ce que l'État, dans sa grande générosité, va pouvoir réparer l'Opéra de Paris en laissant tomber d'autres maisons, je veux dire des grands théâtres, des opéras comme Lyon, Bordeaux, Strasbourg? Est-ce qu'on va pouvoir soutenir efficacement le système lyrique français en région, etc. Et en plus, combler le trou de l'Opéra de Paris et faire que cette maison reparte? Moi, j'ai vraiment les plus grands doutes. Je crois qu'en réalité, on ne va pas échapper à une remise à plat complète de ce qu'est l'Opéra de Paris, de ses missions, de ses programmations, de sa direction artistique, etc. Je pense que là, pour le coup, puisqu'on est constamment en train de nous dire que ça ne sera plus jamais comme avant, je crois que la crise systémique, musicale et lyrique en France va nécessairement amener à redimensionner les missions de l'Opéra de Paris. Je ne vois pas comment on peut faire autrement.
Qu'avec Adem, avec Roselyne Bachelot et Sylvain Faure, pour évoquer les sujets brûlants de l'actualité lyrique, il y en a peu, mais Dieu sait si ceux qu'on aborde sont importants. Roselyne Bachelot, Sylvain Faure dessinait un schéma qui voudrait quelque part que des maisons d'opéra ou des plus petits opérateurs doivent laisser leur place pour sauver la grande maison. Or, l'autre jour, dans une discussion qu'on avait entre journalistes européens, Yehuda Shapiro, britannique, qui écrit pour Opéra, disait justement que ce serait peut-être ces méga-structures qui seraient les plus grandes victimes de cette crise, en ce sens que l'entrepreneuriat, les petits projets d'artistes survivraient peut-être plus facilement que ces méga-productions avec des chefs d'orchestre et des orchestres très chers et qui sont joués une dizaine de fois et puis disparaissent à tout jamais. Alors est-ce qu'on est sûr, s'il y a une victime, que la victime ne sera pas finalement le plus gros morceau ?
Ce serait une catastrophe que de se dire que pour préserver le vaisseau amiral du lyrique français, on sacrifie ces maisons de province. Écoutez, on a déjà encaissé la crise des Gilets jaunes avec le sentiment qu'on faisait tout pour Paris et rien pour le reste de la France, qui est d'ailleurs globalement faux. Mais si véritablement en région, l'État n'est pas équitable, équanime dans l'addition des fonds publics, véritablement, c'est non seulement une catastrophe culturelle, mais c'est une catastrophe politique. Donc là, il va falloir quand même réfléchir à cela finement. Et je sais que dans les maisons de province, on est terrorisé par cette perspective de se dire nous allons être les victimes de cela parce que, évidemment, l'Opéra de Paris, c'est une figure mythique et on ne peut pas faire que de la province.
Alors, on va passer à l'album de Benjamin Bernheim, simplement pour pouvoir terminer ce qu'avec Anem sur une note positive et puis sur une note qui réjouit tout le monde. Voici donc un extrait de ce disque de Benjamin Bernheim qui est paru chez Deutsche Grammophon.
Salut, demeure chaste et pure.
Avec Anem, numéro 22, nous reprenons du service à l'occasion du coronavirus et nous sommes avec Roselyne Bachelot et Sylvain Faure pour évoquer, vous l'avez entendu, cette crise du coronavirus, son impact sur la vie lyrique en France et à l'étranger. On pourra peut-être évoquer en fin d'émission la perspective des festivals parce que jour après jour, notre émission risque d'être périmée vu que les nouvelles tombent et peu d'entre elles sont rassurantes. Mais pour l'heure, parlons peut-être de Benjamin Bernheim. Sylvain Faure, vous nous diriez en deux, trois mots qui est Benjamin Bernheim, au cas où il y aurait un auditeur ou une auditrice de Forum Opéra qui ne serait pas au courant.
Benjamin Bernheim est un jeune ténor français qui, sauf erreur, a grandi en Suisse et qui a, ces dernières années, endossé sur les scènes françaises, mais aussi internationales, des rôles de plus en plus visibles, de plus en plus importants, jusqu'à ce disque carte de visite, si on peut dire, qui, de mon point de vue, est une formidable nouvelle au royaume du chant et au royaume en particulier des ténors, parce qu'on retrouve chez Bernheim des qualités que, honnêtement, on n'avait pas entendues depuis assez longtemps chez un ténor, tout répertoire confondu, évidemment, mais aussi avec chez Bernheim une distinction particulière dans le répertoire français. On parle toujours de la diction, mais là, c'est plus que la diction. C'est vraiment une manière de faire chanter la langue française que je trouve absolument exceptionnelle.
Peut-être quelque chose qu'on avait à très juste titre pointé chez le jeune Roberto Alagna, cette affinité quasiment élective entre son organe et les difficultés inhérentes au chant français. Roselyne Bachelot, j'imagine que vous y avez aussi été sensible.
Je suis tombée complètement amoureuse de ce premier CD de Benjamin Bernheim chez Deutsche Grammophon. Véritablement, évidemment, je l'avais déjà entendu, mais le disque lui a permis d'affiner les qualités et, je dirais, la progression de Benjamin Bernheim dans le répertoire. On sent que des grandes choses l'attendent, mais il y a cette touche personnelle. Évidemment, il a choisi des tubes, hein, il y en a beaucoup, et qui commence par « Toute mon âme est là » dans le CD, je me suis dit « Voilà, toute son âme est là ». Et on retrouve à chaque fois une touche personnelle dans des airs qu'on connaît, des airs rabâchés, ou on pourrait se dire « Mais qu'est-ce qu'il va ajouter Benjamin Bernheim à tout cela ?» Eh bien, il rajoute quelque chose. On a évidemment beaucoup entendu l'air de Lansky dans tous les concours de chant. Évidemment, il y a toujours des concurrents qui chantent, mais les grands. Mais là, il y a un côté vraiment profondément déchirant. Vous allez dire que j'ai une âme de midinette, mais je me suis mise à pleurer en l'écoutant. C'était terrible. La fameuse air de Nemorino, qui est le pont aux ânes des chanteurs, il lui donne un aspect un peu. Il lui donne de la profondeur, alors que c'est un personnage qui apparaît léger. Etc. Il arrive à lui donner une profondeur extrême. Vraiment, j'ai été emballée par ce disque que je passe en boucle.
Mais voilà, et je le rappelle, Benjamin Bernheim, qui avec Pretty Yende devait recevoir des mains de notre rédaction les prix dont nous les avions gratifiés. Ça devait avoir lieu, je crois que c'était le 17 mars. Et évidemment, hélas, ça a été annulé à cause du coronavirus. Ce n'est que partie remise, et puis on s'assurera qu'ils reçoivent leur magnifique récompense. On va terminer cette émission par un petit clin d'œil à l'un de nos chers amis, qui est Stéphane Lissner.
Probablement. Merci pour Sylvain Faure.
Stéphane Lissner, qui, on le sait, est le directeur sortant de l'Opéra de Paris, qui avant ça a été à la Scala de Milan, dont il avait été le sovrintendente, puis avant ça encore directeur du Festival d'Aix-en-Provence, où on avait vu des productions magnifiques, et avant ça encore directeur du Châtelet. C'est dire si Stéphane Lissner a eu dans cette galaxie des directeurs d'opéra l'une des carrières les plus brillantes. On s'attendait à ce que l'Opéra de Paris soit son bâton de maréchal. Et finalement, Roselyne Bachelot, on s'est trompé, vu que Stéphane Lissner atterrit dans un des théâtres les plus excitants du monde, mais aussi l'un des plus difficiles à diriger, le San Carlo de Naples. Alors ça, c'est une surprise.
Mon dernier souvenir du San Carlo est assez vieux, puisque j'avais entendu Samuel Ravet chanter Attila. Vous voyez un peu à quel moment ça remonte tout d'un coup.
C'est les années 80, ça.
Oui, c'est ça, voilà. Mais c'est une maison terriblement excitante. J'ai le sentiment qu'il y a une sorte d'antinomie entre la personnalité de Stéphane Lissner et le San Carlo. Maintenant, c'est peut-être finalement the right man in the right place dans cette maison absolument impossible, comme Naples d'ailleurs l'est. C'est une ville tellement paradoxale, sale et propre, brillante et sombre, minée par le crime et portant des valeurs inextinguibles. Voilà, ça m'a surprise. Je sais, pour en avoir parlé avec lui, qu'il est très excité à l'idée d'aller au San Carlo. C'est une sorte de défi. On lui souhaite le meilleur à Stéphane Lissner, parce que vraiment, ça ne va pas être facile.
Sylvain Faure, c'est vrai que Stéphane Lissner, c'est un très grand directeur d'opéra, mais c'est aussi un peu une machine de guerre et un homme politique dont on peut imaginer que rien ne le fera jamais renoncer, je ne vais pas dire aux délices du pouvoir, mais à cette excitation et à cette adrénaline de diriger un théâtre d'opéra. C'est donc pas une réelle surprise qu'il ait une autre maison, et finalement pas une si grande surprise qu'il est l'une des plus sulfureuses d'entre elles.
En réalité, quand Stéphane Lissner a appris qu'il ne serait pas renouvelé à l'Opéra de Paris, il a affiché une certaine, évidemment, un certain mécontentement, mais aussi il a dit que ça lui permettrait de revenir enfin à ce qu'il aime profondément à l'opéra, c'est-à-dire non pas la musique, mais le théâtre. Et pendant quelques semaines, quelques mois, il a convoité des scènes théâtrales et non pas des scènes d'opéra avant de se retrouver au San Carlo. Et donc, c'est doublement contre-intuitif dans la mesure où c'est encore un opéra, et puis surtout c'est un opéra dont le cœur historique, le génie propre, va le conduire sur des répertoires dont certains questionnaires jadis enregistrés sur une chaîne de télévision avaient démontré qu'ils n'avaient pas une connaissance intimissime. Et donc moi je me réjouis que cette retraite peut-être dorée, en tout cas je le lui souhaite, soit aussi, comme le dirait le ministre de l'Éducation nationale, des vacances apprenantes, où il va enfin découvrir toute une part du répertoire qui lui avait échappé jusque-là, et j'espère pas uniquement en télétravail.
On peut revenir un instant.
La machine de Sylvain Faure.
Je propose qu'on revienne un instant sur ce blind test lyrique. Je vais voler à la rescousse de Stéphane Lissner, parce que moi qui ai pas mal d'expérience dans le fait de présenter des concerts de musique classique à la radio, il arrive toujours ce moment où le bis arrive et où le pianiste se présente sur scène, joue Clair de Lune, et à ce moment-là on se dit « Merde, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je le connais par cœur et j'ai oublié. » Est-ce qu'un blind test, c'est pas forcément le moment d'intense stress où on oublierait ce qu'est Vici d'Arte et où on oublierait ce qu'est Una furtiva lagrima, Roselyne Bachelot ?
Je confirme et j'apporte mon indulgence à Stéphane Lissner. Moi-même, je suis régulièrement l'objet de cette espèce d'examen de passage qui vous met les neurones complètement hors d'état de nuire. Je me souviens d'une boîte à musique avec Jean-François Zigel où il jouait des airs au piano et il joue Castadiva. Et je mets mais 20 secondes, c'est interminable à la télé, à reconnaître Castadiva. J'étais complètement bloqué. Le lendemain, sur les réseaux sociaux, c'était le carnage. Ouais, c'était connasse de Roselyne Bachelot, elle dit qu'elle connaît l'art lyrique, elle reconnaît pas Castadiva. Je me suis fait mais pulvériser. Et ça, effectivement, quand on dans ces émissions, on vous demande de reconnaître des airs, vous dites c'est pas vrai, je connais ça par cœur. Et vous avez un phénomène de blocage. Donc je suis très indulgente avec cet exercice auquel a échoué Stéphane Lissner. Et si j'avais un conseil à donner à certains qui font à qui on demande ça, c'est de dire écoutez, je refuse. Voilà.
Oui, voilà. Mais comme Sylvain Faure a fait le malin et que Krzysztof Penderecki vient de nous quitter, je propose, Sylvain, qu'on prenne la partition de Der Teufel von Loudun, le premier opéra de Krzysztof Penderecki, et que tu nous indiques de quelle mesure il s'agit quand je vais pousser sur play.
Oh, c'est trop facile.
Mais si c'est trop facile, ne le faisons pas. Merci Roselyne Bachelot, merci Sylvain Faure d'avoir été avec nous pour ce 22e Cave Canem.
Merci Camille, merci Sylvain.
Merci Camille, merci Roselyne.
Et j'espère qu'on se retrouvera pour un 23e Cave Canem du confinement ou du post-confinement, de l'immédiat post-confinement. C'est vrai qu'on pourra parler aussi peut-être dans une semaine avec nos invités de la situation des festivals, parce que c'est un sujet gravissime qu'on n'a pas encore abordé, mais peut-être laisser passer une semaine histoire de voir quels festivals vont oser renoncer et quels festivals vont oser ne pas renoncer.